Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, le nœud démocratique aux origines de la crise néolibérale. Tel est le titre du nouvel essai de notre invité aujourd'hui, Marcel Gaucher. Dans ce livre dense, face à ce qu'il appelle l'évanescence de la puissance démocratique, cet intellectuel reconnu appelle en quelque sorte à un sursaut qui commence par une obligation intellectuelle, ne pas tout ramener à l'économie pour expliquer la crise démocratique actuelle, ne pas se faire piéger en quelque sorte par une illusion d'optique. Sous la globalisation financière transparaît autre chose, écrit-il, est à l'œuvre une globalisation politique obéissant à sa logique propre. C'est elle, en profondeur, qui a rendu possible l'expansion fulgurante de la mondialisation économique en transformant le mode de définition et de coexistence des États-nations. C'est parce que les sociétés démocratiques ont subi une métamorphose que le marché a pris une telle place. Sursaut, disais-je, car Marcel Gaucher estime qu'il faut d'urgence reparler politique si l'on veut retrouver un avenir commun, retrouver le rôle spécifique du politique seul capable de créer et d'entretenir un lien entre les citoyens, note-t-il, et retrouver en outre une conscience historique. L'avenir de la souveraineté démocratique est suspendu à ce réarmement de la conscience historique. Nous allons en parler avec lui dans un instant dans ce nouveau numéro du magazine Idée qui interroge ceux qui pensent le monde, un magazine que vous pouvez retrouver et écouter quand vous le souhaitez sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio notamment. Bonjour Marcel Gaucher.
Bonjour.
Je suis heureux de vous retrouver à ce micro. Dois-je rappeler que vous êtes philosophe, historien? Et nous avons parlé ensemble ces dernières années dans cette émission, notamment de quelques-uns de vos livres précédents. L'avènement de la démocratie, le tome 3 exactement, et le tome 4 en 2017 aussi. Robespierre en 2018 et La droite et la gauche, histoire et destin, c'était en 2021, quelques-uns de vos livres. Et là, vous publiez ce nœud démocratique en soulignant d'emblée un paradoxe. La démocratie se porte bien, mais finalement, jamais ces principes ont été discutés, autant discutés.
L'étrange du moment historique, c'est que sur le plan théorique, la démocratie a gagné. Il n'y a plus de propositions alternatives, alors que nous avons vécu toute l'histoire des deux derniers siècles sous le signe de la tentative d'inventer une forme alternative à ces démocraties libérales jugées insuffisantes, trompeuses, mensongères. Ces reproches-là n'existent plus. Les principes de base de la démocratie, à commencer par les droits de l'homme, qui sont leur fondation théorique, sont acceptés de manière très générale. Mais ce qui nous manque, c'est le mode d'emploi. Il y a une sorte de frustration devant ce régime dont il est acquis dans l'esprit du très grand nombre, y compris de ceux qui transgressent les règles démocratiques. Les dictateurs d'aujourd'hui se veulent les plus grands démocrates du monde. Mais évidemment, la vraie démocratie, c'est eux. Mais derrière ce consensus sur les principes se cache une difficulté nouvelle de faire fonctionner ces démocraties d'une manière qui satisfasse les peuples. Les peuples se reconnaissent de moins en moins dans ces démocraties. C'est l'origine de ce qu'on appelle banalement populisme, qui est une sorte de revendication démocratique qui ne sait pas très bien trouver son langage et sa cible, mais qui exprime bien une frustration très réelle, que dans toutes les enquêtes, toutes les possibles, tous les sondages imaginables témoignent. Nous n'avons pas les moyens de faire fonctionner la démocratie sur laquelle nous sommes tous d'accord. Nous sommes en accord sur le principe et en désaccord sur le mode de fonctionnement. Voilà le paradoxe qu'il faut comprendre aujourd'hui.
D'où l'apparition de la radicalité.
Voilà. Alors, il y a plusieurs radicalités. Il y a une radicalité qui tient à la dépolitisation, tout simplement, qui n'est pas doctrinale, qui tient au fait que nous sommes démocrates, donc j'ai le droit de tout dire et de tout revendiquer. Bon, mais ça peut être très véhément comme discours. Oui. Donc c'est une forme de radicalité. Puis il y a des radicalités plus classiques. Là, quand il y a un régime démocratique, il y a la demande d'une démocratie directe, où le peuple sur la place décide directement de ses affaires. Cette radicalité-là, elle n'est pas nouvelle. Et puis, il y a toujours, face à une situation économique comme celle que crée la globalisation, une radicalité protestataire, anticapitaliste. Elle aussi, elle est classique, même si elle prend des formes inédites. Voilà. Et je crois qu'il faut bien distinguer les registres de cette radicalité pour y voir clair. On ne peut pas la globaliser.
Alors Marcel Gauchet, il y a aussi, on va y revenir, c'est au cœur de votre livre, cet antagonisme, voire ce combat, cette lutte entre l'individuel et le collectif. La souveraineté populaire, par exemple. Le citoyen pris individuellement et la souveraineté populaire.
Alors, ce n'est plus le citoyen qui est pris individuellement, c'est l'individu qui ne se sent plus un citoyen.
C'est
encore un autre problème. Oui. Ça, c'est la grande nouveauté de la situation. C'est une vision individualiste. Le mot individualiste, ça fait des décennies maintenant qu'on tourne autour, en voyant bien qu'il se passe quelque chose de ce côté-là, avec une grande difficulté à le définir, parce que individualiste, nous le sommes tous, par construction.
Plus ou moins.
Après, c'est qu'est-ce que la société fait des individus, ça c'est autre chose, et nous sommes dans un moment très particulier, de la nouveauté historique vue d'un martien qui débarquerait sur notre planète, après être revenu à plusieurs reprises au cours des siècles précédents, c'est que l'évidence était la domination du collectif, sous mille formes, et aujourd'hui, l'évidence, c'est la domination des individus sur le collectif. C'est ce renversement-là qui fait la spécificité de l'individualisme aujourd'hui. Et il est d'autant plus remarquable que l'individu en question, il n'est pas l'enfant de ses œuvres, comme le pionnier américain du 19e siècle. C'est un produit de la société. Oui. Jamais nous n'avons été autant pris en charge à tous les niveaux de nos sociétés. Et cet individu qui doit tout à la société se sent le droit d'ignorer la société dans laquelle il vit et dont il est le produit. Je crois que c'est là qu'est la principale contradiction de nos régimes et la difficulté de les faire fonctionner politiquement.
Et il y a une illusion d'optique aussi qui est au cœur de votre livre. Je le disais dès le début de cette émission, il faut éviter de regarder d'abord l'économie et ensuite la politique.
Oui. Là, au fond, on pourrait, s'il y avait y avoir débat, ce devrait être entre deux thèses. Est-ce que c'est l'économie qui, d'elle-même, a pris le pouvoir ? Ou est-ce que c'est nous, collectivement, par un mécanisme qu'il faut précisément comprendre, qui avons donné le pouvoir à l'économie ? Je crois qu'on peut résumer comme ça l'alternative, et dans mon parti dans cette discussion, c'est que c'est nous qui avons donné le pouvoir à l'économie. C'est un moyen pour... L'économie est devenue pour nos sociétés un moyen de se comprendre, de se représenter, de donner en quelque sorte une image concrète de son fonctionnement, qui en fait repose sur des mécanismes sous-jacents d'un ordre tout à fait différent.
Alors justement, ces mécanismes, vous les disséquez, vous les analysez dans ce livre, Le nœud démocratique, Marcel Gauchet, vous écrivez « Sous l'empire de surface de l'économie se cache en profondeur une triple métamorphose de la structure politique de nos sociétés, de leur structure juridique et de leur structure historique. » Tout ça est au cœur de votre livre. Ça veut dire que c'est un mouvement de fond qui nous a conduit à cette situation actuelle.
C'est un mouvement qui vient de très loin. C'est un processus entamé il y a des siècles et qui a engendré la modernité. En tout cas, c'est la thèse que j'essaye de défendre. Si nous avons tellement de peine à identifier ce processus, c'est que, tout simplement, on a l'impression qu'il est derrière nous. Ce processus, pour le résumer d'une formule qui paraît n'avoir aucun rapport avec notre discussion, mais qui est c'est ça qu'il faut justement... C'est le rapport qui n'a pas l'air d'apparaître qu'il faut mettre en lumière. C'est la sortie de la religion. la sortie de la religion, non pas la religion comprise comme une conviction intime, une foi personnelle des individus, mais une manière d'être des collectivités humaines qui a régné sur la quasi-totalité du parcours humain. C'est ça qui est... Il faut mesurer le poids.
Oui, c'est ça. Vous insistez là-dessus dans votre livre, hein, cette longueur, cette prégnance.
Et d'ailleurs, nous parlons ici du monde occidental, mais la partie est loin d'être jouée à l'échelle globale. L'Occident, c'est 1 milliard de personnes. Il faut quand même se rappeler toujours de ce chiffre. Et le Sud global, comme on dit aujourd'hui, il y a des pays du Nord dans le Sud, mais bon, passons, c'est 7 milliards de personnes. Et qui sont encore, bien que très travaillées par la modernité occidentale, profondément pénétrés de cette manière d'être ancienne des sociétés qui a connu sa révolution discrète au cours des dernières décennies dans le monde occidental, avec une extension à la globalité, à la planète entière, par ce qu'on appelle justement la globalisation économique et financière, mais qui est en fait aussi et surtout une globalisation politique.
Et cet effacement du religieux, entendu comme vous le définissez, Marcel Gauchet, a donc fait surgir cet individu,
oui.
L'individu.
La raison d'être élémentaire du religieux à travers sa très longue histoire, c'est effectivement la préoccupation d'assurer la survie des sociétés, pour le dire simplement. Parce qu'une société, par définition, c'est fragile. C'est une unité qui est faite de membres non seulement divers, mais qui naissent et qui meurent, qui ne cessent de se renouveler. Comment faire exister cette unité, cette totalité au-delà des personnes? La religion a été une réponse incroyablement efficace. Et c'est, à mon sens, l'une des principales raisons qui explique sa prégnance à l'échelle historique. À partir du moment où vous posez que tout ce qui constitue l'armature collective, l'ordre qui vous tient ensemble, l'autorité à laquelle vous obéissez, est d'au-dessus et relève d'un absolu qui, lui, est inaltérable, ne bouge pas, reste le même, quelles que soient les vicissitudes de l'ici-bas, vous avez une sorte de d'une assurance collective sur la vie, si j'ose dire, une permanence garantie. Alors que nos sociétés...
Il y a une vision aussi.
Et en plus, une image très forte de la légitimité de ce qui rassemble les personnes qui composent cette société. Et je crois que ce que nous avons vécu au cours des dernières décennies, on peut dater le phénomène assez bien, hein, c'est la disparition de ce qui subsistait de manière peu visible mais très prégnante, de cet héritage de la structure religieuse venue du fond de l'histoire. Alors, c'est ça l'événement, au fond, que j'essaye de mettre en lumière en analysant ses conséquences.
Alors, je le répète, vous vous intéressez à l'Occident, à l'Europe.
Oui, oui, là, on parle de l'Europe, l'Occident, parce que c'est quoi l'Occident? L'Amérique
oui,
du Nord
ça reste
l'Europe.
Oui.
Hein, bon, allez vite, c'est ça essentiellement.
Suite de ce numéro d'idées en compagnie de Marcel Gaucher, avec lequel nous parlons de son dernier essai en date, Le nœud démocratique aux origines de la crise néolibérale, et c'est publié aux éditions Gallimard. Marcel Gaucher, quelle date peut-on définir pour comprendre cette évolution? À partir de quand cette crise démocratique est-elle apparue, selon vous? Parce que les dates sont très importantes. Vous avez, par exemple, vous parlez de cette période déterminante 1975-1985. Par exemple.
Je pense que là, on a une décennie historique, avec un grand H, c'est-à-dire un moment où le monde bascule. 1974, le premier choc pétrolier consécutif à la guerre du Kippour. On est dans un scénario purement économique. Le problème est très simple, purement technique. Les renchérissements des importations d'énergie obligent à stimuler les exportations. C'est ça l'origine, la vraie origine de la globalisation. Il faut un monde ouvert parce que c'est ce commerce international qui va doper des économies occidentales qui sont déficitaires du fait, tout simplement, que le prix du pétrole a quadruplé. Et ça va continuer, puisqu'il y aura un deuxième choc pétrolier. Mmh. Et là, de proche en proche, cet événement purement technique, purement de comptabilité nationale pour chacun des pays, devient l'occasion d'un changement de société. Une nouvelle carte du monde se met en place. Une nouvelle finance se met en place, parce qu'il faut gérer, intervient là-derrière, le contexte américain de 1975, c'est la fin de la guerre du Vietnam, le départ des Américains un peu glorieusement de Saïgon. Et l'effet direct de la guerre du Vietnam, c'est la flottaison du dollar. Donc, pétrodollar d'un côté, flottement du dollar de l'autre, la planète financière se met en place. Et puis, toute une série de transformations interviennent au travers de cette mondialisation. Ça, c'est par en haut. Il y a une sorte d'intégration économique globale qui se fait. Le grand événement de ce point de vue, très discret sur l'époque, on ne le voit pas, en 1979, la Chine change totalement de cap et décide d'ouvrir son économie à un type de socialisme de marché, comme ils disent, mais qui est en fait un capitalisme débridé, sous l'impulsion de Deng Xiaoping. Et voilà, on a un nouveau monde.
Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est autre chose, 1979, c'est aussi les mollahs à Téhéran.
La révolution en Iran, qui est Khomeini. Le contre-choc, qui est le contre-choc de cette évolution. Et à l'intérieur de nos sociétés, on voit apparaître, dans ce mouvement, accompagnant ce mouvement d'ouverture vers le monde, ou alors qu'on était dans des sociétés qui vivaient très en rapport avec elle-même, de manière fermée, ce que les économistes appelaient le développement auto-centré. On était entre soi. Le monde s'ouvre, et en bas, dans nos sociétés, c'est l'arrivée d'un nouvel individualisme que les premiers observateurs détectent dès le tournant des années 80. Là, il y a quelque chose qui change dans la vie sociale, on le voit de tous les côtés.
Et d'autant plus, Marcel Gaucher, qu'il y a dans les années 80 l'élection de Reagan aux États-Unis et celle de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. Et l'apparition du libéralisme accentué, si je dirais.
L'apparition d'un libéralisme doctrinaire, en plus, qui ne se contente pas d'un pragmatisme. C'est la fin du keynésianisme qui supposait des États très interventionnistes. Les règles libérales tendent à s'imposer comme les règles de la globalité. Et finalement, tout le monde est obligé de s'aligner dessus, quels que soient ses choix politiques internes. Reagan, Thatcher, c'est la traduction politique de ce nouveau cours. On a donc, à l'arrivée, et je pense qu'en 1985, il faudrait détailler l'analyse, on a tous les signes de cette nouvelle équation qui va être la règle de composition de nos sociétés, mondialisation par en haut, individualisation par en bas. Une fois qu'on a cette tenaille, en quelque sorte, qu'est-ce qui reste au milieu des cadres collectifs, ce qui était assuré par l'État-nation jusque-là? Eh bien, pas grand-chose, en tout cas pas grand-chose de perceptible par les acteurs individuels, et Je crois que depuis cette décennie qui, je pense, entrera dans les livres d'histoire comme
un
grand moment de notre histoire contemporaine, même s'il y a eu beaucoup d'événements spectaculaires, mais qui ne paraissaient pas faire système, ils étaient chacun isolés, eh bien, je crois que nous voyons arriver une nouvelle société, un nouveau monde, un nouvel individu et une rupture anthropologique. Là, on peut le dire, parce que ces individus ne vont plus être les mêmes que leurs ancêtres. Hein. Et qui plus est, vous y faisiez allusion tout à l'heure, une espèce d'effacement de la continuité historique. Hein. Nous, on était dans des sociétés qui vivaient avec un poids du passé très fort, et la volonté de tradition qui y était maintenue. Nous sommes dans des sociétés qui, à la fois, ont un culte de la mémoire débridée, mais où cette mémoire ne compte pas dans la vie du monde, parce qu'il faut changer. C'est ça l'impératif nouveau qui est le seul qui compte. Et nos sociétés ont largué les amarres avec leur passé.
Et l'histoire est très importante dans le développement de ce livre, Marcel Gaucher. Vous dites que nous sommes passés, nous avons oublié l'histoire au profit du présent. Et vous parlez beaucoup d'Hegel, 1815, lui qui parlait du sens de l'histoire, de la marge de l'histoire.
Eh bien, c'est précisément l'une des cultures les plus prégnantes du 19e et du 20e siècle qui s'est écroulée littéralement. Le sens de l'histoire. Hein. Alors, il y avait des diverses interprétations de ce sens de l'histoire. Il y en avait pour qui c'était l'avènement du communisme, il y en avait d'autres pour qui c'était le règne de la liberté, il y avait des gens pour qui c'était l'option conservatrice, il fallait revenir à des sociétés d'ordre avec un primat de l'autorité garanti. Tous ces scénarios-là se sont littéralement effacés. Pour moi, l'une des choses qui d'ailleurs m'a le plus frappé sur le moment, parce que peut-être c'est un problème personnel, j'avais grandi un peu dans cette culture révolutionnaire, hein, où il y avait, pour les gens, c'était pas simplement une idée, c'était une identité. On était révolutionnaire. Et comment des gens, du jour au lendemain, cessent d'être des révolutionnaires pour devenir des choses très diverses. D'ailleurs, c'est une de ces transformations où on mesure le poids de la marche des sociétés, indépendamment de la conscience de leurs acteurs, elle s'impose à eux. Et là, je crois qu'on peut dire, c'est aujourd'hui, que ce qui était la problématique hegelienne s'est complètement effacé. Cette recherche du sens de l'histoire, d'où venons-nous, où allons-nous, n'a plus aucune pertinence, y compris dans le débat politique, et ça exprime un des aspects qui désole beaucoup les citoyens de notre démocratie. Où sont les projets, où sont les programmes, en dehors d'un catalogue de mesures immédiates? Ben oui, la politique n'est plus capable de s'organiser autour de vrais projets de société.
Alors justement, Marcel Gaucher, dans cette tenaille entre l'ouverture en haut et l'individu en bas, il y a la politique qui essaie de se faire un chemin. Le sens de la politique, d'ailleurs, vous distinguez la politique et le politique.
Oui, alors c'est très simple. Hein. Toutes les sociétés humaines ont été politiques, au sens où elles étaient toutes pourvues d'un appareil au travers duquel elles se donnaient un pouvoir sur leurs membres. Bon, ça, c'est le béaba, si je puis dire. Donc, le politique, c'est une des caractéristiques des sociétés humaines. Il y a des sociétés animales, c'est très intéressant de les contraster. Les sociétés animales et les sociétés humaines, leur différence, c'est le politique. Les sociétés animales, le politique, elles ne connaissent pas. Ça ne les empêche pas d'être éventuellement très structurés. Hein. Elles le sont autrement.
L'homme est un animal politique.
L'homme est un animal politique en ce sens-là. C'est qu'il cesse d'être un animal au sens strict, au travers du politique. Et puis, il s'est passé quelque chose de nouveau, à date très récente, depuis en gros 2 siècles, qui est la mise en discussion du politique par les membres de la société, ce qu'on appelle les citoyens. Les citoyens, eux, s'emparent du politique pour désigner leurs représentants qui vont gérer le politique. La politique, c'est ce qui vient de la société, et le politique, c'est ce qui assure la consistance de la société. Hein, qu'est-ce qu'une démocratie ? C'est la gestion collective par des citoyens du politique qui les tient ensemble. Eh bien, notre problème d'aujourd'hui, c'est que nous avons la politique qui ne sait plus gérer le politique, okay, voire qu'il ignore carrément, qu'il lui tourne le dos, qu'il l'oublie.
Ce qu'on appelle la crise de la représentation.
C'est la crise de la représentation. Ce qu'on appelle la crise de la représentation, elle est là. Ce qu'on ne sait plus représenter, c'est le politique. Nous avons toujours des représentants, mais ils ne représentent rien. Parce que quand ils ne représentent que nous, ils ne représentent rien. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Parce qu'on leur a demandé un exercice très difficile d'être les nos représentants en tant que citoyens et les représentants du politique auprès de ces mêmes citoyens. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que nos régimes ne savent plus faire.
Et toujours dans cette tenaille, Marcel Gauchet, entre le haut et le bas, entre l'ouverture et l'individu, il y a donc cette crise du politique, il y a aussi la crise de ce que l'on appelle l'État-nation, qui justement entretenait ce sentiment collectif. L'un de ces Renan, le plébiscite de tous les jours, tout ça est en voie de disparition,
oui,
si ce n'est disparu.
Oui. C'est pas que ça disparaît, c'est que ça disparaît de la conscience des acteurs. Parce qu'en même temps, c'est toujours là. Et non seulement c'est toujours là, parce que nous vivons dans des sociétés dont l'une des grandes caractéristiques dont il y a lieu de se féliciter est un très puissant État social. Et bien un État social sans nation pour le porter, on voit pas bien ce qui resterait. Parce que ça suppose un travail de redistribution interne qui n'est pas l'œuvre de la nature, hein, qui demande précisément un sens de la cohésion collective, du fait que nous sommes tous dans le même bateau et que nous acceptons de payer pour nos concitoyens, quand bien même nous n'avons jamais touché un centime de cet État social. Donc la nation, elle est toujours là, mais sauf qu'elle est devenue implicite, voire invisible. C'est ça qui rend les choses si compliquées, c'est de ne quand on écrit sur ces sujets, c'est de ne pas se laisser aller à des formules extrêmes. Parce qu'il faut distinguer entre l'implicite et l'inexistant. Il y a ce qu'on ne voit plus et ce qui n'existe plus. Ce n'est pas la même chose. Il y a une sorte de disparition de la visibilité de choses qui, en même temps, sont omniprésentes en réalité.
Mais la phrase de Renan, j'y reviens, le plébiscite de tous les jours, aujourd'hui, n'a plus de sens.
N'a plus de sens parce que, précisément, elle se situe dans le registre de l'explicite. C'est-à-dire qu'il y avait une adhésion très prononcée, très vécue par les personnes envers leur communauté politique qui ont accepté de mourir pour la patrie. Ce n'était pas une adhésion gratuite. Ça pouvait avoir des aspects très déplaisants du côté du nationalisme ou plus banalement du chauvinisme. Hein, l'Allemagne au-dessus de tout, ce n'est pas une formule sympathique. On en a fait l'expérience. Mais il y avait, à côté de ces formes pathologiques, une expression décider de l'adhésion à sa communauté politique qui aujourd'hui n'a plus à peu près aucun sens dans l'esprit des acteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne comptent pas implicitement dessus.
Écoutez RFI et singulièrement le magazine Idées. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Marcel Gauchet qui vient d'écrire Le nœud démocratique aux origines de la crise néolibérale, son nouvel essai publié chez Gallimard. Alors Marcel Gauchet, dans ce contexte d'aujourd'hui où les droits individuels ont supplanté le reste, comment créer un État ? Comment créer ce que l'on appelle, j'aime pas beaucoup l'expression, mais le vivre ensemble. Tout est là, finalement.
C'est la question. Nous allons avoir, c'est en général dans ce genre de processus, des choses qui vont lentement. C'est pas du jour au lendemain qu'on décrète, c'est pas pour un programme pour la prochaine élection présidentielle.
Il n'y a plus de programme dans les élections présidentielles.
Non, d'ailleurs, il n'y en a plus, donc ça règle tout. C'est des mouvements profonds qui vont amener, je pense, une redéfinition très profonde des unités de base de ce monde globalisé qu'on appelle les nations, qui vont trouver une autre formule de leur coexistence. C'est ce qui se cherche et qui ne s'est pas trouvé dans la construction européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que la construction européenne existe maintenant. Ce n'est pas simplement parce qu'il y a eu des guerres fratricides. C'est aussi parce que l'Europe a inventé l'État-nation. Et donc, le moyen de dépasser, non pas l'État-nation, mais la formule ancienne de l'État-nation est bel et bien la question à l'ordre du jour aujourd'hui. Mais on voit bien la difficulté de le faire aussi. Je ne vois pas de raison pour lesquelles l'invention historique s'arrêterait brutalement aujourd'hui. Donc, ça, on voit bien en même temps toute la difficulté de ce genre de processus de reconstruction, de redéfinition, comme nous l'avons connu au sortir de la crise totalitaire dans les années 1945-1975. Il y a eu une sorte de révision générale de ce qu'était la vie de nos sociétés. Bon, ben nous allons connaître un processus du même genre dans les décennies qui viennent. Ça se mesure effectivement en dizaines d'années.
Avec notamment donc cette toute-puissance de l'individu et cette toute-puissance des droits de l'homme, oui, pour parler court, qui est donc, vous le disiez tout à l'heure, Marcel Gauchet, la nouvelle religion en quelque sorte.
C'est... Oui, alors, je me suis beaucoup intéressé à la question de la religion, je fais un usage prudent du terme. La métaphore me gêne toujours un peu, mais parce que ce n'est qu'une métaphore. C'est en tout cas l'objet de la... C'est la chose la plus solide, hein, le culte de l'individu est ce qu'il y a de plus solide dans le monde d'aujourd'hui. Mais ce qui va se renégocier, c'est justement le rapport de cet individu avec sa collectivité. C'est l'ensemble des rapports sociaux entre ces individus eux-mêmes, parce qu'on voit bien qu'il y a un contentieux généralisé qui s'exprime au travers de notions comme la reconnaissance, comme les difficultés des rapports entre les sexes. À partir du moment où on a non pas deux sexes, mais des individus égaux qui se trouvaient de sexes différents, leur relation change complètement de nature. C'est ça la crise actuelle des rapports humains dans nos sociétés. C'est l'effet de l'inconscience du droit sur le statut des personnes.
Alors justement, Marcel Gauchet, le droit est au cœur aussi de votre analyse et vous dites vous-même que dans votre réflexion, vous êtes amené à redéfinir un petit peu la place du droit. Vous dites que vous avez en quelque sorte sous-estimé l'importance de la place du droit dans la démocratie contre elle-même ou dans l'avenir de la démocratie, parce que là aussi, il y a une illusion d'optique. Il y a une façon de voir le droit différent. Le droit est aujourd'hui au cœur de tout.
Oui, il accompagne l'individualisme, en fait.
Les droits de l'homme, les droits de l'homme.
Les droits de l'homme sont en train d'ailleurs d'entraîner une redéfinition du droit sous l'ensemble de ses aspects, y compris les plus opératoires, le droit pratique, qui change insensiblement. Les juristes, d'ailleurs, un certain nombre de juristes l'ont bien repéré en parlant d'une fondamentalisation du droit, le droit de tous les jours. Et je crois qu'en effet, c'est une... Là, nous avons été, moi le premier, victime pendant très longtemps d'une espèce de dévalorisation du droit qui venait du marxisme. Par définition, c'était une codification des rapports sociaux à l'avantage de la classe dominante. Il y a une part de vérité là-dedans.
Reflet de rapport de classe.
Voilà. Oui. Bon, mais il y a autre chose. Il y a effectivement une dimension... la dimension de ce que les sociétés se donnent comme idéal de ce qu'elles devraient être, qui en prime ensuite la définition technique des rapports sociaux. Mais il faut aller là aussi au-delà du contenu strictement positif du droit pour comprendre comment il a pu prendre une telle importance, acquérir un tel enjeu, comment il est devenu une manière pour la société de se représenter globalement, ce qui est autre chose que ce qu'on en faisait traditionnellement.
Or, le droit et la politique, ce n'était pas forcément la même chose. Vous écrivez même, Marcel Gaucher, que la politique n'est pas soluble dans les droits.
La grande tentation de nos démocraties actuelles, c'est de s'en remettre au droit. Puisqu'il n'y a que des individus et des rapports entre ces individus, selon le droit, eh bien, la politique n'est qu'une extension de cette donnée de base, selon laquelle, au fond, il s'agit d'aligner toutes les situations problématiques sur les normes de droit dont nous disposons. C'est une impasse. Je crois que nous sommes en train de le constater sur une quantité de plans. Et il y a autre chose que le droit. Il y a autre chose que le droit. Ce qu'il y a au-delà du droit, c'est le politique, qui permet au droit d'exister. S'il n'y avait pas la structure politique de nos sociétés, il n'y aurait pas d'espace garanti à l'intérieur duquel les droits peuvent s'exercer. Les juges n'ont pas la force armée avec eux. Le monopole de la violence légitime, comme disait un grand auteur, n'est pas celui des juges, mais celui du politique.
Et vous écrivez, Marcel Gaucher, là c'est une question sensible d'actualité qui va le demeurer un petit moment, l'état de droit touche ses limites.
Je crois. L'état de droit est une notion qui a connu beaucoup, beaucoup de métamorphoses. Elle émerge à la fin du XIXe siècle chez les juristes allemands, dans un cadre qui est celui de la domination de l'Allemagne réunifiée par la Prusse, qui pose toutes sortes de problèmes techniques dans le fonctionnement de cette société. Bon, là, il s'agit tout simplement d'une idée, je n'entre pas dans le détail historique, d'auto-limitation du droit. Puisqu'on est dans un système absolutiste, il y a un empereur. L'empereur accepte de limiter son pouvoir par le droit, dans un geste de grande bienveillance, dont il aurait pu s'abstenir. Bon, ça, on en est très loin. Il y a eu toute une évolution, et aujourd'hui, cette notion a pris d'ailleurs une extension tout à fait récente. On parlait très peu d'état de droit il y a encore 50 ans. Ça date vraiment des dernières décennies. Ça accompagne la poussée de l'individu et des droits de l'homme, qui sont les deux faces du même phénomène. Et aujourd'hui, l'état de droit, c'est précisément un état dont la mission est de garantir les droits des individus. Et est-ce qu'à partir de cette formule, alors après, il faut entrer dans le détail technique, les différents principes que ça mobilise, mais moi, ce qui m'importe là, c'est la croyance implicite qui est en dessous. C'est que l'ambition, très noble en elle-même, de régler l'ensemble des problèmes sociaux et politiques par la référence au droit à laquelle il devrait idéalement se conformer.
Et donc certains...
Ça n'est pas possible, tout simplement.
Et donc certains, Marcel Gaucher, estiment que les juges prennent petit à petit la place des politiques, en quelque sorte.
C'est très normal dans cette dynamique. À partir du moment où on veut absolument faire prévaloir la norme de droit fondamental, c'est-à-dire les droits de l'homme. Ça peut être la Constitution, mais la Constitution n'est elle-même que la mise en forme des droits de l'homme appliqués au système politique. À partir de ce moment-là, la personne qui dit le droit est la personne souveraine, en réalité. Alors, l'objection qui vient immédiatement, c'est que les juges ne font pas les lois. Mais si, ils ne font pas les lois, mais ils définissent les conditions de l'application des lois via la jurisprudence. Donc, de fait, il y a une sorte de mouvement, de grignotage, inconscient d'ailleurs. Il n'y a pas de projet des juges de prendre le pouvoir. Mais ils sont amenés d'ailleurs par la demande de la société, et non pas par une sorte d'hubris qui viendrait de d'eux-mêmes. Ils sont amenés à prendre une place de plus en plus grande, puisqu'ils sont l'arbitre de la norme suprême. Évidemment que ça donne un changement de rapport de force entre le politique et le droit, qui est un événement démocratique de première grandeur.
Le droit étant évolutif, donc l'état de droit doit être aussi évolutif, il doit changer.
Eh bien, il peut changer par la conscience de ses limites.
La remise en cause de cet état de droit, ne serait-ce que par le vocabulaire du ministre de l'Intérieur Retailleau il y a quelque temps, a provoqué immédiatement une levée de boucliers.
Parce que, en effet, en réalité, l'état de droit est devenu la formule idéale de la démocratie. C'est un mantra, ça n'est plus une notion à contenu technique dans le débat public, c'est une sorte de manière de désigner le régime idéal que nous voudrions être. Parce que même démocratie, c'est louche, c'est pas suffisamment transparent comme manière de désigner notre idéal politique. En revanche, l'état de droit, si l'état de droit parlait, il n'y a rien à dire. Bon, je dirais, l'histoire de l'état de droit, ça va être, je crois qu'on peut déjà en préjuger, le passage de cette auto-limitation du pouvoir par le droit, hein, qui est le point de départ, à l'auto-limitation de l'état de droit au profit du politique. On est exactement dans le scénario inverse.
La parole à ceux qui pensent le monde.
Marcel Gauchet, vous parlez aussi dans votre livre, pour définir la démocratie aujourd'hui, vous critiquez beaucoup, vous parlez en tout cas du désarroi intellectuel.
Oui, parce que, au fond...
Créé par cette situation de radicalité. Hein.
Oui, oui. Nous vivons tous dans l'idée que nos sociétés sont une sorte de matière malléable sur laquelle nous pouvons agir de façon volontaire pour les transformer. Et il y a quelque chose à la fois qui résiste, éventuellement, et il y a quelque chose qui nous conditionne en amont que nous ne voyons pas. Donc, par rapport à on a eu une idée prométhéenne de la démocratie, c'est une banalité de le dire, au XXe siècle, hein, où on allait transformer le monde. Et d'ailleurs, l'idée banale de la politique, quand j'ai débuté mes études, c'était la politique est au service de la transformation sociale. Bon, mais où est la transformation sociale que nous allions piloter avec le plan, vraiment, toute une série d'institutions, les études, et non, c'est... Nous sommes pilotés et nous ne pilotons pas, nous nous découvrons vaguement, et nous découvrons aussi qu'il y a une sorte de résistance de la réalité sociale qui échappe à notre prise. Par rapport à nos habitudes, par rapport à tout ce qu'a été la vision de la politique, en fait, depuis la Révolution française, nous voyons qu'il y a quelque chose d'autre à penser et qui n'entre pas dans la manière dont nous concevons l'action politique, comme si, au fond... Et on voit revenir, d'ailleurs, ça me fait très très peur dans le contexte actuel, il suffit de vouloir, il faut avoir le courage de vouloir. Non, le plus grand courage de vouloir peut vous conduire dans le mur avec une facilité
avec
déconcertante.
Violence.
Donc, il faut surtout comprendre.
Et vous parlez aussi, je vous cite Marcel Gauchet, de l'intimidation du moralisme dans lequel s'enveloppe l'hégémonie des élites nouvelles manières.
Oui, ça c'est un phénomène pour moi très déconcertant, je dois dire. Nous sommes passés de la science de la société, hein, qui était la grande idée soit technocratique, soit révolutionnaire, à l'idée que la morale suffit dès lors qu'elle s'appuie sur le droit. C'est comme si il suffisait d'être du côté du bien, du progrès, des vraies valeurs pour faire tourner la boutique, si je puis dire. Eh bien, non. Et je ne comprends pas. En fait, ce moralisme est le fruit d'une espèce de démission intellectuelle devant une situation trop compliquée pour qu'on cherche vraiment à la comprendre. Et donc, on s'en remet
à des réflexes pavloviens,
voilà,
en fait, des réactions
pavloviennes. On s'en remet à des réflexes, et à des réflexes qui nous ramènent sur un terrain tout à fait différent à ce qu'a pu être ce qu'on a appelé le victorianisme du 19e siècle, c'est-à-dire la pudibonderie. Là, à l'époque, c'était la sexualité qui était l'objet. Aujourd'hui, c'est la politique, mais les réflexes sont les mêmes.
Mmh. Marcel Gauchet, vous écrivez ceci pour résumer, si l'on peut, votre livre. Je vous cite à nouveau. « Il s'agissait de mettre une part au moins des droits personnels à l'abri de l'emprise abusive du politique. » Avant, hein. « Il s'agissait de dégager les individus de liens communautaires étouffants. Il s'agissait de libérer les initiatives et les inventions du carcan des traditions et des héritages. La tâche est désormais de réarmer les libertés du bras d'une autorité politique sans lequel elles sont vaines. Elle est de redonner aux indépendances le sens d'une appartenance hors de laquelle elles flottent dans le vide. Elle est de réinscrire le flux du nouveau dans une marche d'ensemble permettant d'y reconnaître une œuvre commune. Nous n'y sommes pas. Hein.
C'est le programme. Et c'est un programme dont toute la difficulté est qu'il ne suffit pas de s'en emparer en voulant ou en ayant le courage de décider qu'on va dans cette direction. C'est un travail de la collectivité sur elle-même qui définira cette nouvelle manière d'habiter le monde qui est le sujet actuel, d'habiter le monde dans tous ses aspects, y compris écologiquement.
Oui, parce que vous dites d'ailleurs que la conscience écologique, l'écologie va nous habiter maintenant à jamais.
Hein, ça, j'en suis convaincu, oui.
Et l'inclusion de la nature va rester notre cadre de pensée.
Je le crois.
Et qui rajoute une difficulté.
Qui complique encore le tableau. Donc, retroussons nos manches, parce que la tâche n'est pas petite.
Oui, et donc, il y a quand même là aussi un appel aux politiques, au retour du politique.
Parce que du politique à son niveau le plus élevé. Parce que ça n'est pas avec des bons sentiments ou avec des analyses locales et des programmes à courte vue qu'on peut s'emparer de ces sujets, mais à une échelle. D'abord, le changement d'échelle, hein, qu'impose la globalisation, et puis d'autre part, la complexité de ces questions qui est irréductible à toute simplification, qui demande des compromis subtils, des démarches très neuves dans l'esprit, ne serait-ce que par le calcul des conséquences à long terme. Hein. On agissait au fond avec une vue très courte des conséquences de nos actes. Maintenant, il va falloir ajuster en fonction nos actes en fonction d'une perspective temporelle beaucoup plus longue, sous l'ensemble de ces aspects. Hein, nous voyons d'ailleurs apparaître ça dans le débat politique. Il y a une crise de l'éducation. Ah ben oui, mais une crise de l'éducation, ce n'est pas pour la rentrée prochaine, c'est pour dans 30 ans. L'échelle de transformation d'un système éducatif, c'est 30 ans au moins. Le problème écologique, c'est encore beaucoup plus. Donc il y a une sorte de révision de tous les paramètres de l'existence collective qui est en train de se dessiner de manière encore très confuse, mais c'est normal, et qui va occuper les décennies qui viennent. Là, on n'est pas dans une histoire à courte vue.
Merci Marcel Gauchet. Votre essai, que je recommande évidemment, s'intitule « Le nœud démocratique aux origines de la crise néolibérale ». J'espère qu'il va alimenter un débat, voire une polémique, comme parfois avec vous, Marcel Gauchet, pour le bien des idées. Ce livre est publié chez Gallimard dans la Bibliothèque des sciences humaines.
Merci à vous.
Idées réalisées évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.